Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique.
C'est parti. Alors, pour ce 13e épisode de Crépidule, nous avons quelque chose d'un peu particulier par rapport à ce qu'on fait d'habitude.
On ouvre notre plateforme de discussion.
Yes, et on a deux interviews de féministes qui viendront en deuxième partie, parce que la semaine passée, ou plutôt le week-end dernier, donc le 4 et 5 mars, c'était très chargé médiatiquement pour nous. Donc nous avons rencontré deux personnes au centre de la photographie, dans un contexte particulier art et féminisme. Et le dimanche, nous avons eu l'occasion d'aller...
Cette fois, on en a rencontré 50 de personnes, oui. En tout cas.
Mais qui ne sont pas enregistrées dans le podcast, parce que j'imagine si elles nous écoutent, elles commencent déjà à transpirer. Non. Mais parce que nous avons collaboré, enfin Crépidule a collaboré à l'édition spéciale du Temps, qui est donc un journal suisse roman, sorti le 6 mars, donc à l'occasion, même si un peu avant, la journée internationale des droits pour les femmes.
T'as compris pourquoi c'était sorti le 6 et pas le 8, toi ?
Non, pas du tout.
Ok, voilà, un petit mystère. Et en fait, c'était...
Ah, oui. Leur excuse, oui, c'était ça, c'était que c'était difficile de réunir toutes les personnes un mardi.
Ah, parce qu'il y avait une exigence de finaliser des choses la veille. Oui, il y a un rythme, en fait, hein, ouais. Qui est lié à la presse, qui est particulier.
C'est ça. Donc, c'était parce que nous étions toutes les rédactrices, toutes les personnes qui avaient participé à ce numéro, on s'est retrouvées donc, pour un brunch... un peu alcoolisé, je dois dire.
Vachement champagnisé, oui.
Donc, dans leurs locaux à Lausanne.
Ça, c'était très intelligent parce qu'on a travaillé chacune de notre côté et d'offrir, en fait, ce moment où c'est vrai que c'était l'occasion d'amener encore des petites coquilles que tu avais repérées dans l'article. Mais c'était une occasion de, voilà, ce grand terme, de réseauter. Mais surtout, d'assister, en fait, à une diversité de posture professionnelle, de style, de voix. Hein, oui. Il y avait des femmes qui avaient des voix très particulières dans un sens ou dans un autre. Il y avait cette humoriste. Tu te souviens de son nom?
Marina... Oh, non. Mais on la mettra dans le post-pod parce que j'ai un lien vers... et vers ce qu'elle a présenté au Temps et vers quelque chose qu'elle a enregistré à la RTS il n'y a pas longtemps.
Ah, parce que ça a été... Oui, elle est chroniqueuse à la...
C'est possible, ouais. Bah, en tout cas, elle est humoriste.
Voilà. Pour dire que multiforme est très enrichissant. Un article en ligne, vous l'avez sur le post-pod.
Oui. Je ne sais pas si on parle plus de cette expérience, mais c'est vrai que moi, ça m'a aussi impressionnée. Parce qu'à un moment, pendant le brunch, on a arrêté de boire du champagne et on s'est toutes retrouvées dans un peu la salle de meeting, comme ça, du Temps. Et c'était très impressionnant parce qu'il n'y avait que des femmes. Il y avait deux hommes qui se tenaient là parce que quand même, il y avait...
Le rédacteur en chef.
Le rédacteur en chef et puis deux autres personnes. Mais oui, je ne sais pas, visuellement, comme ça, c'était très... moi, j'ai trouvé très impressionnant.
Voilà, donc ça, c'était notre dimanche. Mais le samedi, une journée passée au Centre de la photographie à Genève.
Oui, où nous avons rencontré Angela Marzullo, qui est une artiste féministe suisse, et qui a exposé, parce que, en fait, quand vous écoutez le pod, ce sera déjà, son exposition sera déjà terminée. Mais du 27 janvier au 12 mars, elle exposait au Centre de la photo de Genève, donc... une exposition solo qui s'appelle « Feminist Energy Crisis ». Donc Angela Marzullo est active à Genève et elle explore plusieurs médiums, la performance, la photo, la vidéo, installation, entre autres. Son art, c'est... Bon, je parle d'un point de vue personnel, mais c'est un art qui marque, je trouve, parce qu'il est à la fois drôle, il peut être provocant, et il est clairement politique. Et moi, j'ai découvert le travail d'Angela il y a quelques années parce qu'elle était venue faire une performance dans le cadre d'un colloque à l'université. On dit un colloque ou une colloque ?
Un. Ça dépend si tu vis avec. Si tu vis avec, c'est une colloque. Si tu vas y assister, c'en est un.
Alors, parce qu'il y avait un colloque à l'université de Genève. Où elle était venue faire une performance qu'elle avait ensuite reproduit peu de temps après au cinéma du Spoutnik à Genève. Donc moi, c'était un peu ma prise de connaissance comme ça avec son travail. Et c'était aussi, ça correspondait en fait un moment où moi je commençais à avoir un peu un éveil féministe comme ça plus prononcé. Ouais, ça m'a beaucoup marqué, j'ai beaucoup retenu son travail ou son nom. Enfin, ouais.
Mais c'est drôle parce que moi, est-ce que c'est la performance où elle lit un manifeste?
Non.
Voilà, alors, non, moi c'était une autre performance, mais que j'ai aussi vu un moment très particulier, ça s'appelait le FIF, Feminist International, je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme, mais un moment qui était d'ailleurs aussi au centre de la photographie, génial, avec plein d'intervenantes du monde entier sur les questions féministes, et Angela qui s'était dressée parmi le public et avait pris d'assaut la scène, donc elle est aussi pour moi liée à un moment assez fondamental, enfin, au début quoi.
Ouais. Donc, on a une première interview à vous présenter avec Angela, qu'on remercie beaucoup aussi d'avoir pris le temps samedi dernier de discuter une demi-heure avec nous. Donc, ouais, ça m'a beaucoup touchée cette interview parce qu'elle parle vraiment de l'expérience à la fois en tant qu'artiste, entre guillemets, femme, mais aussi artiste revendiquée féministe. Comment c'est, voilà, comment ces différents, entre guillemets, facteurs sociaux, politiques s'imbriquent et se nourrissent ensemble. Comment sa posture féministe a nourri son art et vice-versa. Et puis, en deuxième partie,
Natacha, qui en fait est aussi une personne qui se revendique féministe, qui est très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Wikipédia, avec sa responsabilité là de coordonner un éditathon sur le thème art et féminisme. Donc une rencontre pour essayer de rééquilibrer les écritures et la visibilisation des femmes dans cette encyclopédie en ligne. Vous verrez, elle explique tout ça très très bien.
Ben, on se lance.
Mais oui.
C'est parti. Alors,
on passe le micro.
Et l'interview de Marzullo ne termine pas quand elle termine. Donc, soyez pas surpris si on revient à la fin.
Et puis aussi préciser que ça a été enregistré donc, sur place au Centre de la photographie de Genève. Donc voilà, un son un peu différent.
Oui.
On est déjà préparti.
Ouais, c'est vrai. C'est parti.
Alors oui, bonjour.
Bonjour Angela Marzullo. Voilà. Merci de nous accorder une interview à la suite de la table ronde qui a suivi votre exposition Feminist Energy Crisis.
Oui.
Il y a aussi Alessandra qui est là.
Elle est là.
Peut-être on peut juste commencer par parler du titre, donc Feminist Energy Crisis. Tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, alors effectivement, j'avais fait une première image qu'on voit dans l'exposition. C'est effectivement le tas de moules sur la moule qui a inspiré le titre de l'exposition. Après, elle n'est pas venue, disons, l'image de représentation de l'exposition, mais c'est là effectivement où ce titre est né. Dans l'idée, effectivement, sur les énergies, disons, voilà, les énergies pures, non, pardon, pas pures, genre le pétrole, voilà, les sources,
matières premières,
voilà, matières premières, voilà, les énergies pures, voilà, sur l'exploitation des matières premières. Et je me suis dit, voilà, avec ça, peut-être, voilà, ça donnait un peu cette idée, voilà, qu'il y a une espèce d'exploitation massive sur les matières premières, mais qu'on peut aussi lire, effectivement, sur l'oppression générale de tout qui est féminin, si on part de l'idée que la mère, terre, elle est féminine. Mm. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là, ça, c'est né, pour expliquer un peu ce titre. Après, évidemment, c'est aussi devenu quelque chose de plus politique, moins littéraire, dans le sens, effectivement, manque. Est-ce qu'il y a encore une espèce de mouvement féministe? Est-ce qu'il est encore vivant? C'était aussi avec ces questions-là que je me suis dit, OK, voilà, il faut absolument mettre dans le titre, voilà, il faut mettre ça très au clair de quoi on parle dans cette exposition. Pas se cacher et puis pas avoir un discours trop compliqué, mais avoir un titre un peu accrocheur, dans le sens, oui. On peut peut-être aussi dire, voilà, peut-être il est un peu comme ça, un peu hurleur comme titre, mais c'était important pour que les femmes ou le public sont vraiment appelés, quoi, à la question.
Voilà. Ouais. Mais justement, parce que le féminisme, c'est quelque chose qui, c'est un fil rouge dans ton travail, dans tes œuvres artistiques. Et est-ce que tu as l'impression, parce que voilà, là, tu dis, tu l'as mis, le nom, le mot féminisme, dans le titre de l'exposition, est-ce que c'est quelque chose qui était plus difficile à faire avant?
Oui, effectivement, moi, j'étais très contente de travailler dans le centre de la photo parce qu'en fait, le cadre était très ouvert et accueillant, qu'on ne s'attend pas toujours des institutions, que par exemple, si je travaillais, disons, avec des curateurs, ça peut être vite plus compliqué. Et par contre, là, j'avais comme une carte blanche dans le sens aussi de comment je voulais me positionner, quel genre de travaux au fil rouge je voudrais avoir à l'intérieur de l'exposition. Ouais, je pense que c'est très compliqué de dire dans l'art féministe. Mais pas pour moi, mais pour que les autres, ils entendent.
Parce que toi, tu revendiques cette posture féministe depuis le début de ton cheminement artistique ?
Oui, disons, le féminisme m'a un peu sauvée, comme, je sais pas si comme c'est pour des autres femmes. Non, disons, j'étais déjà féministe avant de devenir artiste, donc vraiment, j'étais déjà politisée. Et après, dans le cursus, dans mon cursus artistique et puis effectivement mon éducation institutionnelle, là, c'était très compliqué d'affirmer effectivement une position, disons, politisée du féminisme, surtout dans ces années-là, disons, 20 ans en arrière. C'était pas du tout le trend. Oui, ça commence un petit peu, mais c'était des micro-groupes un peu plus extrémistes qui entraient peut-être même pas dans l'école. Alors, les discours queer ou gender, ça n'existait absolument pas. C'était vraiment un discours des minorités qui l'ont déjà, voilà, moi je le connaissais parce que voilà, je fréquentais ces minorités, mais c'était pas quelque chose qui avait été un discours officiel. Et le féminisme avait vraiment très mauvaise presse à ce moment-là. Il n'y avait pas encore ce renouvellement discursif aussi, qui aujourd'hui, heureusement, il est là, et puis porte aussi nouveau, disons, mon propos, mais à ce moment-là, c'est une espèce de trou noir du féminisme.
Mais donc, quelles ont été tes stratégies à toi pour... c'est une dimension que tu as mis un peu en minus, en sourdine, où tu vois.
Oui, alors effectivement, quand je suis arrivée à l'école, ici à Genève, ils nous ont enseigné l'art conceptuel et the language. Voilà, peut-être il y avait encore des choses qui pourraient fonctionner là autour, mais c'était vraiment l'idée de créer encore un peu l'art poétique, d'une certaine manière. Et moi, ça ne m'a pas dérangée parce que c'était aussi bien pour apprendre un peu les outils. Et voilà, ça m'a permis aussi de déjà peut-être un petit peu défocaliser et voilà, apprendre les outils, disons aussi techniques que je voulais investir comme la vidéo et la photo. Et en même temps, effectivement, j'étais enceinte, j'avais les deux grossesses pendant mon parcours scolaire. Et ça, c'était pas super bien accueilli. Parce que voilà, comme un peu l'idée, c'est que soit t'es. Je veux dire, déjà, si qu'une femme, il te choisit dans une institution, tu vois, je veux dire, c'est déjà genre la top chance. Et en même temps, si après tu mets ça nouveau en danger, disons, avec ta carrière possible, avec, disons, deux grossesses, ça veut dire que tu n'es absolument pas disponible pour ton travail artistique. Disons, ça, c'était vraiment un peu l'atmosphère que moi j'ai vue à l'époque. Et par contre, moi, je ne voulais pas que ça se tourne contre moi, parce que c'était des choix, des pro-choice. Après, on peut discuter, on peut faire différemment. Mais pour moi, c'était important de faire comme ça. Et en fait, alors, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une manière de travailler, que ça, ce n'est pas négatif, ou comment dire, ça ne devient pas une situation toxique. Et là, j'ai vraiment nouveau pris recours, effectivement, aux outils qui ont mis en place des autres femmes, quoi. Et en fait, voilà, moi je pense que je viens vraiment un peu d'une perspective du fight back.
Oui, justement, décris-nous un peu ces outils, parce que je pense que c'est...
Oui, je pense, justement, en fait, à la suite de la table ronde, Alessandra et moi, on a discuté un peu dehors, et parce qu'il y avait eu des propos aussi par rapport aux intervenantes où on n'était pas forcément d'accord, et à quel point ça peut être difficile de négocier ton féminisme avec les autres féminismes, ou aussi même avec les autres postures politiques que ça... Enfin, par exemple, personnellement, ça me coûte parfois physiquement. Et c'est vrai que c'est vraiment important aussi de pouvoir exprimer ce que toi, tu ressens.
Oui, alors maintenant, effectivement, j'ai aussi eu la première fois, je veux dire, dans ma vie artistique, la possibilité de mettre, vraiment prendre la place et puis aussi donner la place à différentes entrées. Franchement, ça m'a pas coûté, mais c'était aussi un apprentissage de faire avec les autres. Parce qu'évidemment, on part un peu de sa propre autoroute. Et puis, c'est important de la tenir. Mais en même temps, effectivement, il y a des autres approches, il y a des croisements. Et effectivement, pour moi, c'était important qu'ici, maintenant, où on a comme un peu conquéri un espace, qu'il y a aussi cette ouverture de ces croisements. Et c'est vrai, ça coûte un peu au début. Ouais, ouais. Non, c'est un peu la patience. En fait, c'est quelque chose qu'avant, je ne savais pas du tout. Mais là, il y avait une situation aussi de ma propre patience qui s'est mise en place vis-à-vis d'écouter des autres. Quoi.
Donc, un outil, c'est la patience ?
Oui, un nouveau outil, c'est la patience.
Parce que je te pose cette question parce qu'il y a cette... Si c'est un des outils que tu as utilisé, mais il y a cette dimension qui a été juste un peu évoquée dans cette table ronde, de partir de l'expérience, en fait, d'éclairer sa propre expérience et de l'utiliser comme un terreau pour construire sa propre démarche, sa propre science. Est-ce que, comment tu te situes par rapport à cette notion de l'expérience,
De l'expérience. Non, alors l'expérience, moi je pense effectivement, moi, mais en même temps pour moi c'était tellement présent toutes ces choses, c'était vraiment l'urgence, c'était pas dans le sens d'une expérience où je dis oui j'ai fait ça et ça, j'étais vraiment dans l'urgence, alors, mais dans l'urgence de réagir, et dans l'urgence de créer une espèce de bulle d'air quoi, à l'intérieur disons aussi de ce système artistique et autres quoi. Et c'était de là, voilà, je viens vraiment plus de l'urgence pour passer à l'action que l'envie de faire une expérience. Mmh. Voilà.
Alors moi, c'était plus dans le sens, comme tu as beaucoup travaillé avec tes filles, c'est, tu vois, plutôt qu'on te reproche ces dimensions de maternité, comme si tu les avais transformées pour en faire une force qui part de ta propre expérience.
Oui, alors effectivement, ce travail avec les filles, comme aussi ce travail ici, c'était très très long, vraiment pendant des longues périodes très très critiquées, mais sur des dimensions, on sort, disons, du cadre critique normal vis-à-vis d'un travail, mais effectivement, comme c'est aussi du privé, effectivement, tu as aussi, voilà, tu encaisses aussi des critiques qui touchent à ta, comment dire, au privé dans ce sens-là, quoi. Puis par exemple, le film des enfants, au début, c'était voilà, que j'étais dans une situation d'exploitation de mes filles. Non, mais j'en ai vraiment entendu de tout. Et où ça, c'est pas la médiation, parce que maintenant, voilà, il y a aussi des outils de médiation, et qu'on fait, on peut pas faire des choses hors cadre. Voilà, j'étais vraiment très, très longtemps confrontée à ça. Mais en même temps, ce travail, maintenant, après coup, effectivement, c'est quelque chose où j'ai travaillé dessus pendant 10 ans. Le corps de l'œuvre, il est devenu tellement important qu'il peut plus être réduit avec des argumentations, disons, presque un peu malveillantes, quoi, dans ce sens-là, quoi. Ou un peu de mauvaise foi, je dirais pas malveillant, mauvaise foi. Et ça, par contre, moi, je savais pas, quand j'ai commencé à faire ces films, je pensais pas que ça va durer 10 ans. Mais effectivement, en fait, aussi avec ça, j'ai appris, effectivement, en fait, le travail doit aussi grandir. Si on a un propos, disons, un peu plus radicalisé ou hors case, c'est lui-même qui doit après tenir et défendre ça que moi, j'ai mis dedans. Ouais, ça.
Et dans ton œuvre, la question en fait de la transmission de l'engagement féministe est très présente. Et Maude Polienne, par exemple, qui a rédigé donc la fiche explicative qui accompagne ton expo, elle définit ton exposition comme étant un acte de passation. Et on vient de parler de tes travaux avec tes filles, où cette idée de faire passer est très présente. Ouais, comment, en fait, en tant que personne et en tant qu'artiste, est-ce que tu travailles à cette transmission politique féministe ?
Ouais, en même temps, c'est aussi quelque chose où j'étais aussi sujet, quoi. J'étais aussi portée par des autres femmes. Je veux dire, maintenant, voilà, c'est la première fois que c'est, disons, un couple d'hommes qui monte ce travail, et puis on a aussi la possibilité d'accéder à ces grands espaces. Mais pendant des longues années, c'était des femmes qui portaient vraiment, disons, le discours et aussi la visibilité de mon travail. Et dans ce sens-là, voilà, je pense qu'il y a aussi quelque chose, pas naturel, mais quelque chose qui coule dans le mouvement, qui continue à fonctionner dans cette manière-là, un peu plus intuitif. Hein, voilà, on travaille un peu dans des autres espaces, mais cette énergie-là reste. Et puis moi, j'en ai aussi beaucoup profité. J'étais aussi portée par des autres femmes, dans des moments où moi, j'avais besoin.
Et c'est quelque chose que tu arrives à offrir aux générations qui suivent ?
Ouais, j'espère, en même temps, et c'est aussi bizarre, parce que oui, là, moi, évidemment, moi j'ai 45 ans, alors voilà, c'est un autre moment de vie qui, disons, commence, mes enfants, ils sont grands, tout ça, mais en même temps, tu veux pas non plus être tout de suite mis dans la, tu vois, un peu dans la case des grands-mères qui ont des choses à dire, qu'on aime bien écouter, et en même temps, il y a une distance, effectivement, il y a un temps qui s'est écoulé, voilà, dans ma praxis. Bien sûr, non, je pense que c'est important qu'on puisse rester fluide avec ses propos, quoi.
Après, on discutait aussi de ça avec Alessandra avant l'interview. C'est il y a aussi une importance dans le féminisme de produire des archives, d'enregistrer les actions qui sont faites. Et je pense que le fait, en fait, de toi, en tant qu'artiste féministe, t'insérer dans une institution, eh ben, ça permet aussi vraiment d'ancrer ton œuvre dans l'histoire, en fait.
Oui, disons, c'est ça qui était toujours refuté pendant longtemps à beaucoup de femmes. Je veux dire, c'est ça aussi qu'on nous dit toujours, oui, les femmes, elles n'étaient pas là. Mais en fait, il y avait toujours des femmes. Il n'y avait pas l'accès aux musées, aux institutions et aux archives, à l'histoire. Je veux dire, là, on est dans un mensonge général. Mais en tout cas, les femmes, elles étaient tout le temps là. Et c'est aussi ça que je voulais un peu prouver ici, dans le sens où je me dis, OK, si on ouvre les portes de l'institution, voilà, il y a toute la communauté, elle vient, elle est prête, c'est des femmes de tous les niveaux, ils sont très, très, comment dire, c'est des spécialistes de leur propre cause, quoi. Mais ça, pour ça, il faut un peu changer, mais pas beaucoup, hein. Voilà, il faut mettre un titre, voilà, il faut mettre les cartes voilà, sur la table. Et là, on change vraiment, hein. Je veux dire, là, on a eu sûrement 95% les femmes qui sont venues, quoi. Mmh. Tu vois, on change aussi les statistiques. On peut changer, c'est pas compliqué, mais il faut ouvrir les portes.
Et moi, justement, j'avais une question par rapport à ça. Donc là, tu parles du public. Est-ce que tu cibles un public en particulier? Est-ce que tu aimerais les sensibiliser ou est-ce que tu aimerais carrément créer un public nouveau?
Oui, alors moi, je pense là, c'était pour ça, après les performances, je suis aussi un peu retournée sur le public, parce que c'est en fait souvent des femmes que je ne connaissais pas forcément, parce que j'étais étonnée, effectivement, que ça sort déjà de mes connaissances, parce que je pensais, voilà, on est à Genève, il y aurait sûrement des gens qui, voilà, qui connaissent mon travail, tout ça. Et là, j'étais vraiment confrontée à des femmes qui sont venues, souvent, effectivement, des mamans avec leurs filles, voilà, un peu des biomes comme ça, qui sont déplacées en voiture, voilà, pour être là à 11 heures. Et voilà, c'était pas des femmes où moi j'ai ciblé, mais j'étais hyper contente qu'ils ont fait l'effort de venir. Et effectivement, après, il y a dans l'art aussi toujours un peu ces problèmes entre une espèce d'élitisme intellectuel et puis le mouvement, disons, de base, ou des femmes qui peuvent aussi être dans l'idée d'un coming out, une reconstruction dans une autre phase d'absence, où ils étaient peut-être absents du mouvement ou plus du tout liés à quoi que ce soit. Et je pense que ça, c'est aussi important de garder ouvert tout le temps, des entrées pour ces... Voilà, aussi des nouvelles coming out féministes dans, des, à travers tous les âges et les couches. Pour moi, ça reste important. Et puis, par contre, le travail intellectuel, il n'est pas dénigré, mais ça ne se joue pas seulement vers ça, quoi. Ça, pour moi, c'est important.
Et tu fais pas mal de performances et tu as une alter... on dit un alter ego, mais j'aimerais dire une alter ego ici, qui s'appelle Makita. Et donc, est-ce que tu peux un peu parler de ce choix de l'alter ego?
Oui, alors effectivement, comme je suis arrivée à Genève et puis c'était la mode, disons, de l'art conceptuel, alors pour moi, j'avais pris très très longtemps pour comprendre, mais c'est quoi cet art conceptuel? Ça m'a pris vraiment longtemps. Puis tout d'un coup, j'ai compris, ah voilà, ça pourrait être un concept, ce nom de Makita. Et disons, c'était né un peu quasi avant mes travaux artistiques. Mais en même temps, c'était important pour moi parce que ça m'a porté tout du long, quoi. Et Makita, c'est la machine pour... voilà, c'est une perceuse. Voilà, c'était aussi un peu cette idée-là, créer ses propres outils, voilà, une perceuse, un fétichisme que normalement, c'est les hommes qui utilisent, mais on perce quand même les trous, voilà. On est un peu dans toute cette fantaisie-là. Et ça reste quand même un nom féminin, attirant, disons, japonisant, voilà, il y a tout qui va avec.
Moi, mon œuvre préférée de l'exposition, c'est donc l'enregistrement vidéo de cette performance avec l'araignée. Pardon, j'ai oublié le titre.
Voilà. Il s'appelle Bodybuilding.
Donc, peut-être juste pour expliquer. Tu arrives à expliquer, toi, Alessandra?
Alors, Makita se met en scène accroupie, nue, avec filmé un plan qui s'arrête sous les bras, qui ne montre pas les bras ni le haut du corps. Et en fait, tu as un jouet qui est composé d'une longue tige qui amène à une sorte de petite bête poilue en plastique. Et en fait, par la force de ton vagin, tu vas insuffler de l'air dans cette bestiole qui saute.
Voilà. Et moi, je trouve vraiment cette œuvre excellente. Je l'avais vue il y a quelques années, quand tu étais venue donner une performance à l'université. Et j'ai trouvé, c'est génial parce que ça, il permet vraiment de visualiser en fait la force du vagin, la puissance des muscles. Et Dans un discours en fait hétérosexiste, le vagin il est souvent représenté comme un réceptacle passif, comme un vide, un trou. Et là, c'est ça devient vraiment une partie du corps comme ça, agissant et actif.
Oui, alors effectivement, c'est la proposition, c'est pour faire un training du périnée. Vous voyez, le périnée, c'est quand même un problème pour les femmes, souvent après les accouchements, mais pas seulement. Et en fait, disons, les gynécos, normalement, ils proposent une rééducation avec des petites pénis, ou voilà, un peu des choses, des tiges en bois. Et moi, ça me semblait vraiment, vraiment, j'ai refusé, hein. Mais en même temps, voilà, il faut quand même faire quelque chose. Et je me suis dit, oui, peut-être on pourrait faire ça dans une manière un peu plus comme ça, comme du training, un peu plus dans le sens aerobique à la maison, voilà, un peu self-help. Et en même temps, libération de la jouissance. Parce qu'en fait, ces muscles-là, ils servent vraiment à la jouissance. Pour la rééducation aussi de la jouissance.
Ils devraient même être éduqués à la jouissance.
Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, c'est pour ça, c'est bodybuilding, dans le sens aussi un truc un peu mauvais genre que les gens, ils font, voilà, pour un peu augmenter leur potentiel.
Il y avait une jeune fille, elle devait avoir une dizaine d'années, qui était là en début de la table ronde, et sa mère lui montrait ça, et elle était choquée. Arrête de me parler de ça, maman.
Non, c'est clair, c'est pour ça. Effectivement, on a mis à l'entrée, voilà, cette exposition parle de sexe, mais vraiment aussi à la hauteur des enfants. Hein, c'est vraiment eux qui doivent lire ça. Aussi dans l'idée, on peut dire oui ou non à cette exposition à l'entrée. Et puis effectivement, je pense qu'il y a... Voilà. Ça peut passer ou pas, mais l'idée c'était aussi ne pas castrer derrière après toute la production juste parce qu'il y a un public sensible dans ce sens-là.
Mais il y a un peu de grabuge derrière, mais c'est pas grave. Ça s'entend très bien au micro, on nous entend bien. Mais moi justement ça m'a fait très rire parce que moi j'avais un jouet comme ça gamine et de voir ça dans ce contexte-là, c'est vrai, ça m'a...
T'avais pas pensé l'utiliser comme ça ?
Non.
Oh, c'est clair, c'est une proposition très très transgressif. Mais,
mais jouissif aussi.
Oui, jouissif, mais aussi effectivement quelque chose où tu dis, waouh, ok, peut-être. Mais en même temps, on est aussi dans le double araignée symbolique, comment dire, le sexe poilu. Après aussi avec l'araignée poilue, voilà, on est aussi dans une idée d'hystérie. Mm-hmm. Parce que derrière, il y a la musique de la Taranta, qui est vraiment la musique libération des femmes traditionnalistes italiennes. Mais c'est une musique du délire, hein, voilà, où tu entres vraiment en transe, quoi. Effectivement, ça accompagne toute cette chose de la montée de la jouissance.
Et je trouve très puissant cette figuration coupée dans le corps à ce niveau-là. Ça repropose une autre architecture corporelle qui est très intéressante.
Ouais, on entre vraiment dans une animalité du corps. Ça, c'était pour moi aussi voulu, quoi, effectivement. Oui, on coupe la tête pour être plus meilleure bête, quoi, de sexe.
bon, petite dernière question. Petite, elle s'annonce grande. Pendant la table ronde, tu parlais de ton exposition comme aussi une manière de sonner la cloche, de rassembler les féministes, les femmes, le public. Et moi, j'ai un peu une question par rapport à cette idée de réunification ou juste d'unification des féminismes et des féministes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et est-ce que... Enfin, comment est-ce qu'on rend les féminismes plus accessibles sans gommer ces nuances et la complexité des enjeux qui lui donnent aussi sa force?
Oui, alors moi je pense que ça manque vraiment crucialement des lieux de réunion. Je veux dire, tu vois, soit tu es dans des milieux différents, qu'on parle un peu sur les mêmes questions, mais un lieu de réunion, ça manque vraiment crucialement. Et évidemment, là, il y avait un peu une atmosphère comme être dans une petite chapelle. Hein. Il y avait, tu vois, en même temps, c'était classique. Il y avait les trois femmes devant et puis les publics. Mais il y avait aussi, moi, j'ai vu le corps du public comme ça. Il y avait beaucoup de femmes et tout le monde était assez serré. Et je pense que c'est ça que j'ai vraiment souhaité. C'est pour ça, après, je suis très contente que ça ait eu lieu, quoi. Que, effectivement, les femmes y viennent, quoi, et puis il y a un espace qui se réouvre, et puis je pense que c'est ça qu'il faudrait, et c'est aussi ça que l'art elle doit absolument proposer. C'est pour ça que je dis voilà, un musée à soi maintenant.
Mais justement, dans Sonner la cloche, tu parles tu fais un appel à la radicalité. Qu'est-ce qui s'est perdu? Qu'est-ce que c'est pour toi cette radicalité que tu appelles?
Oui, alors moi je pense effectivement avec cette exposition on a comme un peu rebaptisé, comment dire, on a fait une réunification et par des femmes aussi qui peut-être ne veulent pas se projeter au-delà, mais au moins il avait de nouveau une possibilité de participer ou, voilà, ou être réintégré dans un mouvement de pensée. Et moi je pense maintenant c'est, ça va, en tout cas pour moi c'est clair, il faut aller au-delà du féminisme, il faut, voilà, il faut devenir radical. Mais la radicalité, c'est encore un autre souci. Et ça va être nouveau le même boulot.
Qu'est-ce que tu entends par aller au-delà ? Parce que tu penses que la radicalité ne peut pas être contenue dans une posture féministe ?
Je pense qu'au moment où la radicalité, elle est très peu demandée. Donc, je veux dire, déjà, si le féminisme en soi, il est accepté, ça semble déjà beaucoup. Mais je veux dire, le féminisme, il est historique. Et la radicalité aussi, mais je pense qu'elle fait peut-être partie plus de la contemporalité. Mmh.
Tu aurais un nom pour cette radicalité?
Merde. Bah ouais, je peux le dire, révolta femminile, si vous voulez. Ouais. Je dis, voilà. C'est là où ça va continuer la pensée aussi.
Yay.
Merci beaucoup, ça Angela. C'est parfait.
Okay. Merci beaucoup.
On reprend l'interview
parce qu'on n'a pas terminé de discuter de féminisme.
Oui, on évoquait le fait de cette place actuelle du féminisme avec cette dimension qu'on a déjà évoquée dans nos podcasts de pop culture qui a repris un peu ses codes. Et toi, Angela, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, parce que moi, je trouve que c'est plutôt positif que négatif. Ça, à l'intérieur du mouvement, c'est un peu, il y a une espèce de peur de perte des valeurs, disons, vraiment réflectives. Mais en même temps, ça ouvre, même seulement au niveau symbolique, un public qui est peut-être après être, disons, éduqué vers un truc plus concret. Mais ça permet vraiment une entrée. Et il y a une pièce, non, c'est pour ça que j'ai rebondi là-dessus, il y a vraiment une pièce qui, aussi dans l'expo qui questionne ça, c'est la pièce où, en fait, j'ouvre le manteau et à l'intérieur, tu sais, il y a tous les badges d'Angela Davis.
Ouais,
alors là, on est vraiment dans une marchandisation, disons, d'une image et aussi du féminisme dans ce sens-là, mais en même temps, cette campagne des badges a permis quand même la libération d'Angela Davis. Alors tu vois, on peut aussi discuter. Alors si tout le monde peut mettre 5 francs, voilà, tu peux aussi faire une grande somme, même si c'est mainstream. Alors voilà, c'est pour ça, moi je pense que là c'est intéressant de ne pas fermer les portes juste parce que peut-être ils portent des paillettes ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, aussi voir.
C'est cool les paillettes.
Mais oui, mais aussi regarder dans l'ensemble, tu vois, qu'est-ce que ça amène à l'intérieur, quoi.
Oui, puis moi je pense, quelque part, est-ce que c'est vraiment intéressant de discuter de ça c'est vraiment féministe, ça ne l'est pas. Je pense justement, ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir à la diversité des points de vue et de travailler à un mouvement ou à des mouvements qui se remettent constamment en question et qui acceptent une diversité des paroles.
Oui, moi je pense que c'est important parce qu'en fait, si une femme se dit féministe, on ne peut pas la mettre en cause. Ben, je veux dire, ça ne va pas. Tu peux pas dire non, t'es pas féministe parce que t'as peut-être pas ça et ça. Et je veux dire, c'est là, disons, moi j'aime pas du tout parler du respect, mais une écoute, quoi. Voilà, là on est vraiment dans l'écoute. Et effectivement, voilà, si quelqu'un dit je suis féministe, il faut l'accepter dans son être, quoi. Je sais pas, dans son intégralité.
Et au contraire, je pense que c'est une grande stimulation parce que pour moi, c'est tout ce qu'on a souhaité, c'est qu'il y ait débat. C'est qu'on montre justement que ce n'est pas un dogme, mais qu'il y a mille manières de l'incarner, de le vivre. Et c'est tout ça qui enrichit la réflexion. Je trouve très, très stimulant.
Oui, et puis voilà, on n'a pas beaucoup parlé des femmes, mais effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on a soulevé, parce qu'il y a aussi des féminismes qui sont différents, teintés par rapport à la culture où les femmes y viennent et sortent. Et puis ça, il ne faut pas non plus, tu vois, faire semblant qu'on est tous, disons, dans le même, dans la même énergie et au même endroit sur cette terre, je veux dire. Les causes, ils sont très différents de l'oppression aussi.
Ouais.
Ouais, je pense les causes de l'oppression et aussi les outils qu'on choisit pour lutter et pas dire vous pouvez que lutter ou nous pouvons que lutter d'une certaine manière, mais d'accepter aussi le fait que, enfin d'accepter juste de reconnaître le fait que c'est nécessaire d'avoir une multitude d'outils dans les différentes boîtes.
Après, par exemple, j'étais aussi à la manifestation, tu sais, des femmes américaines. Et puis évidemment, tout le monde avait ses chapeaux sur la tête. Et puis, Moi, je me sentais aussi comme une ovni. Je me dis, non, mais attends, on va pas recommencer à tricoter nos propres chapeaux pour dire qu'on est bonne et rose. Puis aussi féministe et rose, voilà. Alors, effectivement, on peut aussi marcher avec ça et puis garder son propre chapeau sur la tête. Voilà.
Une ça, c'était image. Une belle image, belle fin. On coupe le micro pour de bon.
On reste au centre de la photographie de Genève pour rencontrer cette fois Natacha, qui était donc responsable de ce moment art et féminisme dans Wikipédia.
Yay!
Bah c'est parti.
Alors Natacha, est-ce que tu te présenterais un petit peu?
Oui, alors Natacha, wikipédienne et wikimédienne. J'ai créé le projet Les 100 pages, qui vient en fait d'un projet qui était à la base à Genève et qu'on a transformé, qui s'est internationalisé. Voilà, et qui vise à créer des biographies, mais pas seulement des biographies, de femmes sur Wikipédia, étant donné que sur Wikipédia francophone, nous avons actuellement à peu près 450 000 bios d'hommes et 75 000 de femmes. Donc il y a un gender gap qu'on essaye de combler.
Il y a aussi un enjeu, non, de qui écrit les articles. Moi, j'avais compris que beaucoup d'articles sont écrits par des hommes et beaucoup moins par des femmes.
Oui, il y a à peu près 90% de contributeurs qui sont des hommes et 10% de femmes. Enfin, ça varie des fois 10%, 16% selon les encyclopédies.
Mais si tu as ces chiffres, ça veut dire qu'il y a des études qui ont été réalisées sur ce sujet ?
Exactement. Le mouvement wikipédien est très réceptif à la critique. Et en 2011, il y avait eu un article du New York Times qui disait « Est-ce que vous voulez savoir à quoi ressemble le gender gap ? Regardez à la liste de contributions sur Wikipédia. » Voilà. Et à partir de là, il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites à l'intérieur du mouvement pour essayer de combler ce gender gap. Mais nous sommes tributaires des sources. Et donc, il faudrait déjà que les sources, elles, médiatisent autant les femmes que les hommes. Donc, on bute à des critères d'admissibilité. Pour être admissible, un sujet doit avoir été médiatisé. On ne peut pas créer de contenu primaire sur Wikipédia.
Ça, c'est une condition de la dimension encyclopédique. Voilà. De cette démarche, c'est ça ?
Exactement. C'est une encyclopédie répertorie des contenus notoires et donc ne peut pas inventer un sujet.
Donc parfois, c'est la difficulté de la non-existence de sources et parfois, ça, j'imagine qu'il y a la question de qu'elles sont là mais pas visibilisées.
Exactement. Pour résumer, c'est à peu près ça. Donc souvent, quand on décide de faire une biographie sur une femme, eh bien, on trime un petit peu pour chercher des sources. Et c'est pour ça, par exemple, aujourd'hui, on a demandé au Centre Photographie Genève de regarder dans leur bibliothèque et médiathèque s'ils pouvaient nous sortir des sujets art et féminisme, parce que depuis le 1er mars jusqu'au 5 mars, à Genève, on s'occupe du sujet art et féminisme exclusivement.
Ça, j'ai vu que c'était un sujet qui avait été donc qui est abordé dans différents pays du monde. Il y a Montréal, Paris, il y a Lausanne aussi. Tu penses que c'est exhaustif que les villes que je viens de citer là ?
Alors pas du tout. Ouais. C'est vraiment, ça a démarré aux États-Unis. Quatre femmes très engagées qui ont démarré ce projet et c'est devenu ce qu'on appelle une campagne rhizomatique, c'est-à-dire que n'importe qui peut se joindre au mouvement art et féminisme. Il suffit de s'enregistrer et vous pouvez faire même ça tout seul ou à deux dans votre salon. Vous pouvez faire partie de cette campagne. Voilà.
Voilà, oui, c'était ce terme rhizomatique que j'avais retenu dans la présentation. C'est cette idée de pouvoir s'approprier cette dimension. Et art-féminisme, comment c'est venu sur cette thématique en particulier ?
Alors ça, il faudrait demander aux créatrices de la campagne, mais c'est quand même toujours en relation avec ce fossé des genres, ou gender gap, comme on l'appelle en anglais, c'est-à-dire cette volonté de rendre visibles des profils et des biographies et des sujets qui ont trait aux femmes. Voilà. Alors moi, je l'interprète de manière large parce que dans cette campagne, comme on a démarré par un éditathon réservé aux femmes dans l'association L'Estime, on a aussi écrit des articles sur, par exemple, l'histoire LGBT en Suisse. Voilà. Et donc, c'est moi qui ai écrit l'ébauche d'articles. Et là, j'ai essayé vraiment de mettre en avant l'histoire des lesbiennes parce qu'elles sont toujours invisibilisées. Donc, quand j'avais pas de source, je cherchais des photos, des voilà, c'était un petit peu cette problématique. Donc là, dans cet article particulier, a visé à essayer de rendre une partie normalement invisibilisée qui concerne l'histoire des femmes dans cet article.
Et tu as évoqué ce terme de éditathon. Est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas, tu peux nous décrire un peu de quoi il s'agit ?
Alors, un éditathon, c'est un rassemblement de contributeurs, de contributrices wikipédiennes qui se rassemblent un jour donné, une date donnée, sur un sujet donné. Et on appelle ça éditathon.
Et le but, c'est de pouvoir justement sortir d'une pratique plus solitaire pour essayer de développer une communauté à travers ces événements ?
Alors, Wikipédia, il y a une communauté derrière. On pense souvent que c'est un environnement strictement virtuel. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens qui se rencontrent assez régulièrement et qui font ces éditathons. Donc c'est pas, on contribue en ligne, mais sinon, on discute énormément en dehors pour savoir sur quel thème on va travailler, sur quel thème on a envie de travailler, parce qu'il n'y a pas de comité éditorial qui déciderait, voilà, on va travailler sur ça ou ça ou ça. Voilà, n'importe qui peut contribuer, on n'est pas obligé d'avoir un compte. Vous, depuis votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur le bouton « Modifier » et modifier un article dans lequel vous voyez une faute d'orthographe ou un manque de source ou un sujet qui n'est pas abordé.
Et est-ce que il y a des réactions qui sont fortes de par le reste de la communauté ? Est-ce qu'il y a un dialogue ou une controverse qui peut se dérouler autour d'articles ?
Ah oui, alors le mouvement wikipédien est composé de personnes qui sont curieuses, autodidactes, et du coup passent leur temps à discuter. Alors sur la Wikipédia francophone, ça va être un endroit qui s'appelle le bistrot, et des sujets qui sont abordés qui font parfois polémique. Là, la dernière en date qui concerne notre sujet, c'était l'éditathon non mixte à l'estime, qui a fortement soulevé la communauté qui voyait pas du tout, enfin une partie de la communauté qui voyait pas du tout pourquoi on faisait cet événement exclusif. Ça a donné lieu à des débats très colorés et très imagés, voilà.
Qui vous a renforcé dans le fait que c'était nécessaire de faire non mixte ?
Oui, alors moi j'ai toujours fait des événements mixtes, c'est-à-dire que comme je le disais pour rigoler, je ne vais pas baisser les pantalons des gens pour voir de quel genre ils sont, en fin de compte, ça m'est un petit peu égal, je vais partir de la façon dont la personne se présente et s'étiquette elle-même. Mais en fait, là, on était accueillis par une association de lesbiennes qui, dans ses statuts, prône la non-mixité et l'inclusivité des femmes lesbiennes, trans, voilà. Donc, elles ont dit, ben voilà, c'est les conditions d'hébergement de cet éditathon. Et donc, on a décidé de faire un événement réservé aux femmes. Et ça a suscité beaucoup d'adversité, à tel point que je me dis, on va continuer chaque année à Genève de refaire cet événement. Parce que c'est vrai que ça m'a vraiment sidérée que cette ancienne notion du safe space ou de la non-mixité féministe soit à ce point remise en question. Parce que nous avons des clubs de foot qui ne sont pas mixtes, qui séparent bien les genres. Donc je ne vois pas du tout pourquoi ce qui est accepté dans le foot ne serait pas sur Wikipédia. Voilà.
Moi, je trouve quelque chose qui est très, cherchez le mot, valorisant dans ce que vous faites, là, dans ces éditathons, et puis dans l'idée de rendre les gens conscients de ce gender gap, comme vous l'appelez. C'est que voilà, aussi de créer, en fait, des sources pour les gens qui vont sur Wikipédia pour justement mettre les récits qui sont d'habitude relégués aux marges de l'histoire ou même de l'actualité, de créer ces sources-là pour que les gens ils aient accès.
Alors là, il faut s'adresser aux journalistes, aux personnes qui écrivent des livres et qui publient des ouvrages scientifiques et académiques, parce qu'au final, ce sont ces personnes-là qui créent les sources. Nous ne faisons qu'aller les chercher, voilà. Alors c'est vrai que dans un éditathon art et féminisme, on va un petit peu creuser pour essayer de trouver des choses qui ne sont pas forcément visibles. Voilà. Mais les sources, on ne peut pas les créer.
Donc il y a une collaboration avec des institutions d'archives historiques ou...
Voilà, exactement. Le lieu idéal pour un éditathon, ça va être un endroit où il y a une Wi-Fi, parce qu'on doit publier en ligne et on peut chercher des sources en ligne, mais où il y a aussi également une bibliothèque qui permet d'avoir des sources papier et surtout des personnes qui connaissent bien un sujet donné. Voilà.
Et c'est quoi votre meilleur exploit wikipédien ?
Alors, mon meilleur exploit, je pense, quelque chose dont je suis très fière, c'est d'avoir fait une conférence sur le langage épicène dans le milieu Wikimédia à Paris, qui était très focalisée sur l'Académie française. Et là, bon, je précise que je suis française et j'ai pris une notion suisse que j'ai apportée à Paris et qui est celle du langage épicène. Voilà, parce qu'en France, on parle de féminisation, en oubliant qu'avant la féminisation, au XVIIIe siècle, il y a eu une masculinisation. Et qu'au Moyen-Âge, les textes étaient épicènes. Le curé, il appelait à la messe, il appelait les pêcheurs, les pêcheurs et les pêcheresses. On a des articles du Ménager de Paris, de 1393, je crois, qui parle de Marie, mère advocate de Dieu. Enfin, les textes étaient épicènes au Moyen-Âge. Ils ne le sont plus aujourd'hui parce qu'il y a eu une masculinisation au XVIIIe siècle, ce que l'Académie française a fortement oublié. Voilà. Donc on avait fait venir Eliane Viennot, Thérèse Moreau, pour discuter avec la communauté wikimédienne et wikipédienne de cette notion de langage épicène. Et du coup, maintenant, on a avancé sur la question sur Wikipédia francophone, c'est-à-dire qu'on a pu féminiser certains titres de fonction sur Wikipédia. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cette notion sur Wikipédia, mais disons que maintenant, on peut quand même le faire. Si on rédige un article en tant que première autrice et qu'on utilise le féminin, voilà, la convention, c'est qu'on ait le droit de choisir le genre des fonctions qu'on écrit.
Alors ça, c'est une réussite.
Ah oui, c'est quand même pas mal, oui.
Et pour peut-être terminer cette rencontre, est-ce que tu peux juste un peu nous partager ton parcours qui t'a amené à cet engagement ?
Alors, ça vient en fait en 2011, une fondation qui s'appelle la Fondation Émilie Gour, a pris connaissance de l'article du New York Times et s'est tournée vers l'Université de Genève, plus précisément le service égalité de l'Université de Genève, en l'occurrence Madame Brigitte Montillery, et lui a demandé de faire une conférence sur le sujet. Et Brigitte s'est tournée vers moi parce que j'ai un profil un peu geek et que j'avais fait une formation de stratégie digitale. Et moi, je me suis dit, bon, c'est vraiment dommage. Enfin, c'est bien de faire une conférence, mais si on amène 200 personnes dans la salle et on fait clap-clap à la fin, après chacune repart chez soi et on n'a pas avancé d'un schmilblick le problème, moi, ça me laissait frustrée. Donc, j'ai proposé qu'on fasse des ateliers de contribution pour apprendre à des femmes et à des hommes à contribuer sur ces sujets. Et du coup, j'ai dû apprendre à contribuer moi aussi. Voilà. Donc, c'est un petit peu... Ça aussi, c'est une réussite, c'est-à-dire qu'on a beaucoup appris à contribuer en apprenant aux autres, en fait. Et c'est tout à fait possible, voilà.
Et donc, tu es partie de ta propre formation avec l'idée de l'association, c'était de partager ses savoirs.
Alors, l'association, elle a été faite récemment parce qu'on a reçu 10 000 $ de la Fondation Wikimedia aux États-Unis pour continuer le projet. Pour faire ce qu'on appelle du community building, c'est-à-dire faire une communauté contributrice sur Genève. Et donc, ça nécessite de se rencontrer, évidemment de partager un repas et aussi de voyager pour pouvoir se former, justement. Voilà. Et ça, c'est très sympa sur Wikipédia parce qu'on ne va pas vous dire il faut faire ça ou ça. À un moment donné, vous avez besoin d'apprendre un bout de code pour faire une requête SparkQL. Vous allez rencontrer des gens, demander mais qui c'est qui peut m'aider à faire ça, voilà. Et donc, c'est comme ça que les 100 pages sont nées.
Et donc, toi aussi, pour transmettre cette information, tu as un moment rencontre les lundis, c'est ça ?
Alors, tous les lundis midi, à la cafétéria du Nid du Four, on fait ce qu'on appelle les Wikimidi. Donc, on se rencontre entre midi et 2 heures pour contribuer sur des sujets. Donc là, pendant un mois, on a préparé Art et Féminisme. Le mois prochain, on va continuer sur le sujet Art et Féminisme. Mais on a aussi fait des trucs comme en novembre, il y avait le mois funéraire. Donc, on a été au cimetière Saint-Georges, photographier les tombes. Et puis, on s'est intéressé particulièrement aux tombes de femmes. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est intéressant. On apprend plein de choses sur sa ville, en fait.
Donc, rendez-vous les lundis midi, Unis du Four.
Voilà. Et puis, on a eu aussi, suite à cette session Art et Féminisme, des propositions de l'association L'Estime, éventuellement pour refaire quelque chose chez elle. Et puis, la bibliothèque du Musée d'Art et d'Histoire aussi, pour venir de temps en temps profiter de leur espace les midis. Il y a des pourparlers qui sont en cours. Donc, opération réussie.
Voilà. Bravo. Voilà. Et merci pour ce temps.
Oui, merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir accepté d'être partenaire de l'événement. On était très, très content et contente. Voilà.
Alors, on remercie encore Natacha et Angela Marzullo pour leurs interviews. Et nous, on va dire à dans 2 semaines.
À dans 2 semaines.
Tchuss.
Tchuss.
Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur notre site crépidule.com avec crépidule au pluriel. Vous y trouverez aussi des publications post-pod avec des liens et des infos pour aller plus loin sur les thématiques abordées. Vous pouvez aussi écouter Crépidule depuis iTunes.